Chapitre 17. Einstein s'empara du marqueur.
« Il faut comparer ce problème à la pêche à la nasse. C'est une question de probabilité. »
Il fit le dessin rapide d'une cage grillagée et ajouta des poissons. Ses coéquipiers l'observèrent comme une bête curieuse.
« La nasse est un piège passif. On l'installe au fond de l'eau et on attend. Il n'y a pas d'appât. Une fois que les animaux entrent par un entonnoir, ils ne peuvent plus en sortir. Le résultat est donc uniquement basé sur des probabilités. Plus le coin où on pose la nasse est peuplé, plus la possibilité de prendre au piège des individus sera grande. »
Il écrasa la pointe du feutre sur deux poissons à l'intérieur de la nasse.
« Je vous présente messieurs Vasquez et Lampin. »
Charcot eut un déclic, et la vérité lui apparut aussi clairement qu'à son collègue. C'était comme pour le jockey et son papier dans la poche. Quand on apprenait le truc, c'était évident.
« Il ne s'est pas adressé qu'à ces deux hommes, mais à d'autres, beaucoup d'autres. »
Einstein acquiesça avec conviction.
« C'est exactement ça, Shark. Un nombre suffisant pour que, parmi ceux qui ont reçu le livre, au moins deux tombent sur le prénom Delphine par pur hasard. »
Florence ôta l'élastique de sa queue de cheval et le passa autour de son poignet. Ses longs cheveux se répandirent sur ses épaules. Amandier siffla entre ses dents avec un sourire. Elle lui balança une boulette de papier au visage avant de se tourner vers Einstein.
« C'est du délire. Tu sais combien il y a de prénoms féminins ?
Un paquet, oui.
Mais réfléchissons encore, » proposa Romuald. On est plus enclin à penser à des prénoms de notre génération ou de celle de nos parents, parce que ce sont ces gens-là qui constituent la plus grande partie de notre cercle de connaissances. Ces prénoms sont ceux qu'on entend depuis notre enfance. Ils sont gravés dans notre inconscient. Lampin et Vasquez ont à peu près notre âge. Spontanément, Delphine leur viendra davantage à l'esprit que Gertrude ou des prénoms tout récents comme Anaïs.
Il leva le doigt.
Vous avez vu d'ailleurs les quelques secondes qu'il m'a fallu pour trouver Gertrude et Anaïs ? J'ai dû fouiner dans ma mémoire. Or, la lettre précise bien qu'il faut être spontané.
Amandier posa les talons de ses chaussures sur la table basse et s'alluma une cigarette.
Delphine, c'est pas un prénom aussi répandu que ça. Mais il l'est quand même pas mal, et c'est justement pour cette raison que ça a fonctionné. Imagine le flot de personnes qui auraient débarqué au 26 bis si le prénom à deviner avait été Marie ou Sylvie. Delphine n'est certes pas le plus commun, mais il doit se situer dans le top 50. Qui, de près comme de loin, a déjà connu une Delphine ici ?
Tous acquiescèrent.
Vous voyez, si on envoie suffisamment de plis, un destinataire y pensera à coup sûr. C'est juste une question de probabilité, et les probabilités ne mentent pas.
Einstein engloutit son vin, tandis que Titi s'approchait du tableau avec l'impression d'avoir le cerveau en ébullition.
On parle de combien, là ? Des centaines de courriers ? À mon avis, avec 300 ou 400 sur un échantillon bien ciblé, tu dois pas être trop éloigné de la vérité. Il a dû voir large pour s'assurer que ça marcherait, donc disons même 500.
500.
500 livres à 10 francs pièce en plus des timbres. Ça fait un paquet de fric. Ça explique aussi pourquoi il a multiplié les bureaux de poste. Il a réparti les envois pour éviter d'attirer l'attention. Étant donné la quantité, je parie qu'il est allé dans d'autres arrondissements. Et sans aucun doute, vu comme il est méticuleux, il a dû faire pareil pour les bouquins. Acheter dans toutes les librairies de Paris et de sa banlieue pour pas se faire remarquer.
Les regards se croisèrent en silence. Chacun imaginait la minutie, l'ampleur de la tâche. Taper chaque lettre personnalisée à la machine, se procurer les livres, les emballer avec du papier cadeau et des rubans. Détenait-il déjà Delphine alors qu'il s'attelait à ce fastidieux travail ? Combien de journées, de semaines avait-il fallu pour tout planifier ? Charcot visualisait l'homme enfermé dans une pièce, entouré de tous ses exemplaires des fleurs du mal, ses enveloppes, ses timbres, tel un artisan du macabre.
« Pourquoi il fait ça, staré ?» lança finalement Amandier dans un nuage de fumée.
« Pour se foutre de notre gueule, » répliqua Titi du tac au tac. « C'est comme son histoire de père avec Pagode. Il est joueur, il veut nous mener par le bout du nez.
Ça coûte cher, le foutage de gueule.
On dirait que l'argent n'est pas un problème pour lui. Il voulait sûrement nous faire perdre du temps et nous voir nous enliser. Si Shark n'était pas tombé sur Lampin, on aurait pu chercher des mois, on n'aurait jamais compris. C'est une remarquable supercherie.
Et la preuve d'un degré de méticulosité inédit. » Il lorgna le dessin d'Einstein, observa les deux poissons emprisonnés dans la nasse.
Rien n'indique qu'il existe un lien entre Lampin et Vasquez, reprit-il. Ils ont pu être choisis au hasard dans l'annuaire ou dans n'importe quelle putain de liste qu'on dégote sur le Minitel. Comment savoir ? Peut-être que Vasquez dit la vérité et qu'il n'a jamais eu le moindre lien avec Escrémieux. Hasard ou pas, nous, va falloir qu'on creuse, et ça va nous manger du temps, des ressources, de l'énergie.
Il s'orienta vers un plan de Paris et sa grande couronne, cette fois. Une immense toile d'araignée. Un réseau infini de routes, d'immeubles, de caves, de parkings, de forêts, de champs. Combien de lieux abandonnés, d'endroits sordides où il avait pu enfermer sa proie. À ce moment-là, il se sentit tout petit.
Qu'est-ce qu'il a fait de toi, Delphine? Et surtout, pourquoi?